téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. Les faits de faire. Les faits.
Il est 9h41 sur France Inter, l'instant M de retour dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Un patron de presse du nom d'Alain Veil contrôlant tous les médias du groupe SFR, dont L'Express par exemple, ou Libération et une kyrielle de magazines, a jeté un pavé dans la mare, déclarant de but en blanc « Si demain on peut diffuser des informations d'aussi bonne qualité en se passant du papier, pour les entreprises de presse, ce n'est pas plus mal. D'ailleurs, elles vont dans le mur. » Dans certains journaux, on s'est étranglé. Comment ça, plus de papier? Et nous, lecteurs, hein, vous comme moi par exemple, de quoi avons-nous envie? D'un écran ou d'un objet fait de grains et d'encre? Depuis le temps qu'on nous en parle, la fin du papier subi ou désiré, elle est pour quand concrètement? Question à Francis Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez deux grands quotidiens, Les Échos et Le Parisien, aujourd'hui en France. Vous présidez également le syndicat de la presse quotidienne nationale. Et c'est vous qui avez souhaité réagir à ce micro après les propos d'Alain Veil. C'est le grand truc d'Alain Veil, hein. Il jette des pavés dans la mare et derrière tous les patrons de presse lève le bouclier. Alors, un mot d'Actu Média pour commencer. Et Bruno Donnet, salut Bruno.
Bonjour à vous, pavé dans la mare.
C'est ça, la fin du papier et la fin des figures politiques qui s'en sont beaucoup servies de l'encre et du papier.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Édouard Philippe dans l'actu, Premier ministre, invité de France Info, c'était il y a quelques minutes.
Ce coup de fil d'un de vos ministres à un journaliste vous paraît-il une bonne pratique?
Non, c'est d'ailleurs...
Non.
En fait, le truc est assez simple. Quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen.
François Bayrou, ministre de la Justice, s'est fendu d'un coup de téléphone la semaine dernière, s'offusquant d'une enquête menée en ce moment par Secret d'Info, l'émission d'investigation de France Inter. Coup de fil qualifié de pression inacceptable par le syndicat national des journalistes, hein, qui a réagi par communiqué. Coup de fil qui intervient alors que le ministre du Travail du même gouvernement porte plainte suite à la publication par Libération de documents dévoilant la future réforme du Code du Travail. Donc j'ai un patron de presse à mes côté, vous réagissez comment face à ces ministres qui téléphonent et qui portent plainte?
Je trouve d'abord que la phrase d'Edouard Philippe est extrêmement juste. Quand on est ministre, on n'est plus un simple citoyen. On n'est pas obligé d'être ministre. Si on est ministre, on assume un certain nombre de responsabilités. Et par ailleurs...
Donc on n'appelle pas en direct un journaliste parce qu'il enquête?
On ne l'appelle pas pour se plaindre parce que le rôle d'un journaliste, le rôle d'un journal, le rôle d'un média, c'est de sortir des informations.
Mmh.
Et en venir à critiquer la sortie d'informations... Ça pose un vrai problème démocratique.
Et là, ça va plus loin, puisque là, c'est on critique, et puis même il y a même un des ministères qui porte plainte.
Le fait de porter plainte, je pense que c'est vraiment une erreur. Je pense que là, je comprends même pas comment on peut faire quelque chose, et j'espère qu'ils vont retirer leur plainte très rapidement.
Alors c'est pour vol et pour recel, donc ça vise à la fois les journalistes et en même temps les fonctionnaires supposés du ministère du Travail, de l'administration, qui auraient fait fuiter ces documents.
C'est quand même le travail d'un journal. Mmh. Le travail d'un média, c'est de sortir des informations, c'est pas de faire plaisir. On n'est pas là pour faire plaisir aux puissants, entre guillemets.
Vous êtes habitué à ce type d'intervention
Ça arrive effectivement de temps en temps. Et je pense qu'il faut toujours être extrêmement ferme et dire, écoutez, si vous voulez porter plainte, allez-y. En général, ça va nulle part derrière, parce qu'au bout d'un certain temps, ils retirent leur plainte se rendant compte que c'est ridicule. Mais je trouve que cette attitude-là, et de la part d'un ministre, porter plainte, c'est extrêmement grave.
Bien. Alors un petit mot de Mercato de télé maintenant. Eh bien, vous pourrez lire ça, par exemple, dans les pages télé du Parisien ce matin, puisque j'ai le patron du Parisien à mes côtés. C'est à vous, change de visage. Enfin, pas tout à fait. Le talk show de France 5 sera animé la saison prochaine par Anne-Elisabeth Lemoine. Celle-ci était déjà chroniqueuse et joker de l'émission. Jusqu'alors présentée par Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix, vous le savez, devient, elle, le visage du 20h de France 2. Alors, Bruno, dimanche soir, vous avez regardé les éditions spéciales législatives de TF1 et France 2 et vous avez été frappé par une absence.
Oui, Sonia, avant-hier soir, les deux plus grandes chaînes de télé avaient oublié un élément d'habillage sonore qui leur aurait pourtant été d'une grande utilité.
Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Le jingle alerte enlèvement qui leur aurait permis de nous signaler la disparition totale de leur plateau des ténors du Parti Socialiste et des Républicains, tous brutalement atteints de dégonflite aiguë. Car devinez un peu qui le PS avait dépêché ce dimanche sur TF1 ? Bruno Julliard, le jeune et très discret adjoint à la mairie de Paris, qui donnait la réplique à la très transparente républicaine Valérie Pécresse, tandis que, sur France 2, messieurs Julien Drey et Jérôme Gage, excusez du peu, débattaient avec Bernard Accoyer et Hervé Mariton. Non mais c'est quoi ce casting? C'est ça le niveau d'une soirée d'élection à la télévision? Il était où Hamon? Ils étaient où Fillon, Bertrand et Wauquiez? Et les gars qui étaient ministres socialistes il y a encore un mois, ils faisaient quoi dimanche soir? Ils avaient tous piscine? D'ordinaire, vous le savez Sonia, à l'occasion des spéciales élections, les états-majors des partis politiques envoient leurs plus gros bras, leurs stars, leurs cadors, parce qu'ils prennent l'événement très au sérieux. Du reste, pour en avoir le cœur net, j'ai vérifié ce matin qui le Parti Socialiste et l'UMP avaient envoyé sur les plateaux de télé il y a 5 ans, au moment des législatives. Et bien sur France 2, il y avait Martine Aubry qui s'opposait à Jean-Pierre Raffarin, et sur TF1...
Résultat satisfaisant, mais qui appelle une mobilisation de second tour.
François Fillon.
Il y avait Laurent Fabius et François Fillon, deux ex-premiers ministres, rien que ça. Et si les formations politiques envoient leurs gros bras, c'est pas par hasard, c'est parce qu'une soirée élection à la télévision, ça peut changer les choses, ça peut même tout faire basculer. La preuve, la v'là. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé sur le plateau de France 2 il y a tout pile 10 ans au soir du premier tour des élections législatives? Non, non. Eh ben, écoutez donc, Laurent Fabius avait coincé Jean-Louis Borloo en lui posant cette question.
Monsieur Borloo, pouvez-vous vous engager, là, devant les millions de gens qui nous écoutent, à nous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de TVA après les élections?
Le ministre du budget de Nicolas Sarkozy avait balbutié, il lui avait répondu ça.
Rien n'est décidé aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est que le pouvoir d'achat des salariés français s'améliore en allégeant... Laissez-moi, monsieur Fabius.
Voilà, si vous augmentez la TVA, il va pas s'améliorer, lui avait balancé Fabius, qui venait de soulever là un énorme lièvre qui permit au PS, que la tendance du premier tour donnait pourtant en grande difficulté, de sauver entre 40 et 50 sièges de députés, ce qui, il y a 10 ans, fit dire à l'encore socialiste Jean-Luc Mélenchon, au moment où il croisait Fabius sous l'œil des caméras de France 3.
C'est ça la politique. Il y a pas mal de gens ce soir qui te doivent leur
élection. C'est ça la politique, oui, bien sûr.
Il y a pas mal de gens qui te doivent leur élection. Eh oui, c'est ça la politique. De l'engagement, du savoir-faire, de l'opiniâtreté, en un mot, du boulot. Seulement voilà, dimanche soir, au Parti Socialiste, comme chez les Républicains, personne parmi les ténors n'a voulu se dévouer, personne n'a mouillé le maillot, bref, personne n'est allé bosser. Et, à l'image de Bernard Accoyer, ils se sont tous contentés de se lamenter devant le taux canon de l'abstention.
On n'a jamais aussi peu voté pour des élections législatives, et cela... nous interpelle.
Alors ok, quand plus d'un électeur sur deux ne se rend plus aux urnes, c'est un problème, mais j'aimerais juste poser ici une question. Lorsque même les caciques ne se déplacent plus pour faire de la politique, peut-on encore demander aux Français de se déplacer pour aller voter?
Réponse dimanche prochain. Merci Bruno Denet.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Francis Morel est mon invité ce matin, patron du Parisien aujourd'hui en France, patron des Échos. Ce qui est intéressant, c'est que voici deux quotidiens qui ont un lectorat très différent et des pratiques de lecture très différentes. Vous réagissez aux propos d'Alain Veil, qui lui dirige les médias du groupe SFR, BFM TV, RMC, mais également l'Express, Libération, et puis cette application, ce kiosque ambulant qui s'appelle SFR Presse. Alain Veil a dit la semaine dernière, si demain on peut diffuser des informations d'aussi bonne qualité en se passant du papier, finalement, pour les entreprises de presse, ce n'est pas plus mal. La presse traditionnelle va dans le mur, il ne mâche pas ses mots. Il n'y a pas un journal papier qui connaisse la croissance. Et toc. Voilà. Alors, Francis Morel, vous souhaitiez réagir. On peut peut-être commencer par cette info de la semaine dernière aussi. Il y a un grand quotidien francophone montréalais qui s'appelle La Presse. Nous, on a reçu des messages d'auditeurs du Canada. Ça y est, c'est fini. Le papier pour La Presse à Montréal, c'est fini. Déjà, ils avaient arrêté les éditions de la semaine. Ils avaient gardé l'édition du week-end, qui à l'américaine hein, est très, très volumineuse. Et puis c'est fini. Il y a pile un an, ça c'est l'anniversaire ce mois-ci, The Independent en Grande-Bretagne, terminé. Plus de papier, sans journalistes licenciés, d'autres recrutés pour renforcer le site internet. La fin du papier, c'est pour quand?
Alors moi, je voudrais quand même donner un autre exemple.
Oui.
C'est Newsweek.
Oui.
Quand Newsweek a arrêté son papier, 8 mois après, il a arrêté le site internet. je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir une cohabitation entre les deux. Si on n'a pas le site internet, on se prive d'une audience importante parce que le digital nous apporte une audience différente de celle du papier. Mais par contre, le papier reste l'existence du journal. Ça me semble extrêmement important. Et la semaine dernière, j'étais au New York Times et je parlais justement du sujet parce que c'est un sujet qui agite dans le monde entier. Et ils ont exactement la même position que moi pour dire non, le papier va continuer. Alors dans 30 ans, on ne sait pas. Moi, dans 40 ans, je ne sais pas où je serai.
En 2010, il y avait un chercheur australien du nom de Rose Dawson qui avait sorti cette timeline, c'est-à-dire l'extinction du papier. Vous vous souvenez, parce que ça avait été un vrai choc, pays par pays. Alors, il avait dit les États-Unis 2017, donc manifestement, il s'est trompé. Grande-Bretagne 2019, Finlande, Singapour 2021, Australie 2022, Russie, Belgique 2026, ça vous fait sourire, Brésil, Italie 2027, Grèce 2028, France 2029, donc c'est pour dans 11-12 ans. Allemagne 2030, Chine et Japon 2031, Russie 2036, Argentine 2039 et tout le reste du monde 2040. Plus de journaux papier. Ça vous paraît délirant ?
C'est complètement...
C'est n'importe quoi ?
C'est n'importe quoi. Comment peut-on même affirmer quelque chose comme ça avec une telle précision ? Ça n'a aucun sens. J'ai un de mes collègues de Presse quotidienne régionale qui, il y a de ça 5 ans, avait dit de la même façon... Notre titre, je ne dirais pas lequel, va s'arrêter en 2022. Et à l'époque, j'ai dit, pourquoi 2022 ? Pourquoi pas 2023 ou 2021 ? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on voit ? On a un certain public qui est très habitué et qui aime lire un journal papier. Parce qu'un journal papier, c'est un plaisir. Quand on a le temps, on prend son petit déjeuner, on prend son café le matin en feuilletant son journal, c'est un plaisir qui n'a rien à voir avec le feuilletage d'une tablette. Donc je pense que ça reste.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez Le Parisien aujourd'hui en France et vous avez Les Échos. Moi, par exemple, j'utilise les deux. Je lis les deux absolument tous les jours, notamment pour le boulot. Et évidemment, Les Échos, pour moi, ça se lit très très bien sur le numérique. Ça me sert aussi d'outil de travail, d'archives, etc. Le Parisien, je demande à l'avoir en papier. Je veux voir la une. Je me fiche un peu de ce que vous avez à la une des Échos. Moi, je cherche ce qui correspond à mon secteur, les médias, la technologie, mais comme beaucoup de gens qui travaillent dans des entreprises et qui sont spécialisés. Alors que la une du Parisien, la mise en page, vos infographies, vos dessins de presse et tout ça, c'est important de les voir, de les tenir en main.
Alors c'est vrai qu'un journal comme Le Parisien, où il y a une proximité, c'est extrêmement important de le lire en papier. Pourquoi on voit autant de gens le lisant, je disais cette expression, en prenant son café
Sur le comptoir, parce que le matin.
C'est un plaisir.
Dans les transports en commun,
Même sur les Échos. Moi, je lis les Échos le soir à 22h30 sur ma tablette, ça me fait gagner du temps pour le lendemain, puis j'ai le temps de le lire. Lorsque je le reprends le lendemain, très souvent, je découvre des articles que je n'avais pas lus en feuilletant la tablette.
Parce que la mise en page est différente, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est avec les deux modèles que vous dirigez, c'est qu'ils vendent à peu près le même nombre d'exemplaires, en gros.
Je vends beaucoup plus de Parisiens que des Échos.
Oui.
Alors, grosso modo, trois fois plus de Parisiens que des Échos.
Je prends aujourd'hui en France. D'accord.
Vous avez raison.
Aujourd'hui en France, 128 000 exemplaires, 118 000 achetés au kiosque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un lecteur qui se déplace au kiosque et qui l'achète le matin en partant au boulot. Les Échos, 127 000, donc c'est quasiment la même chose, mais seulement 11 000 achetés au kiosque. Donc c'est vraiment, c'est votre entreprise, c'est au bureau que vous le trouvez, vous êtes abonné, vous le trouvez sur la table en arrivant le matin. Donc c'est très différent. Ça pose aussi vraiment la question, Francis Morel, de l'accès à ces kiosques, à ces marchands de journaux. C'est devenu un problème aigu quand même en France. Nous à Paris, mais partout en France.
Il est certain que la baisse de la diffusion au numéro, elle est liée en grande partie à la fermeture des points de vente. Et que la fermeture des points de vente, pour nous, c'est un problème terrible. Et qu'à chaque fois qu'on peut réouvrir des kiosques ou aménager mieux des kiosques, on voit tout de suite la conséquence dans les ventes. De ce point de vue-là, la mairie de Paris avec Mediakiosk, les projets de nouveaux kiosques qui ont parfois été critiqués, en fait, c'est une très bonne idée parce que ça fait des kiosques plus grands où on peut mieux présenter la presse, présenter d'autres produits en complément si on fait venir des gens dans un point de vente, dans un kiosque.
Mais ça fait 360 points de vente à Paris, c'est énorme et c'est plus qu'il y a quelques années.
C'est plus qu'il y a quelques années. Donc,
mais vous avez vous-même publié un texte il n'y a pas très longtemps où vous disiez Annecy, Bordeaux, Boulogne-Clignancourt, Clermont-Ferrand, Nice, Tours, Saint-Tropez, c'est votre plume, tous ces endroits où des marchands de journaux ont fermé.
Oui. Nous, on se bat, effectivement, avec l'appui des municipalités de temps en temps, pas toujours, pour la réouverture des points de vente, car c'est extrêmement important. Le contact avec le journal, il passe d'abord par le point de vente. C'est essentiel d'avoir des points de vente. Et dans une ville, un point de vente, c'est pas simplement de la vente de presse, c'est également un contact, un lien social.
Alors, Alain Veil disait également qu'à une époque, il a dirigé un journal, ça s'est très très mal passé. Hein. Vraiment, ça a été un des grands échecs de la carrière d'Alain Veil, qui n'en a pas connu tant que ça. Ça s'appelait La Tribune. Et lui, il dit à l'époque, j'ai été extrêmement surpris. En fait, 60% des journaux imprimés ne sont pas vendus. C'est un modèle complètement déficitaire et complètement caduc. C'est un des grands, grands problèmes des marchands de journaux. Tous ces invendus, tout ce système, etc. On ne va pas rentrer parce que c'est assez technique. Mais est-ce que vous pouvez nous dire... aujourd'hui, combien ça vous coûte d'imprimer un journal? Est-ce que ça vous rapporte encore de l'argent d'imprimer un journal? Le transport, l'impression, etc.
Un mot quand même sur Alain Veil et sur ce qu'il a dit. Alain a une réussite exceptionnelle dans l'audiovisuel. Mmh. Ce qu'il a fait sur RMC, sur BFM, sur BFM Télé, c'est extraordinaire. J'ai une très grande admiration pour lui. Vraiment, hein, sur le papier... il n'a pas connu de telle réussite.
Non,
et
ça a
je
été
pense
un
que c'est pas un secteur avec lequel il est très à l'aise. Bon, 60% d'invendus, il est le seul à avoir 60% d'invendus sur ses journaux.
D'ailleurs, moi, j'ai pas 60%. Après son passage à la tête de La Tribune a été obligée de cesser sa parution papier et est devenue un site internet.
Ouais.
Oui, bah quand même.
Nous étions le seul pays où il y avait deux quotidiens économiques. Donc c'est assez logique qu'il y en ait un qui ait disparu. Bon, point. Ensuite, je vais revenir sur la question que vous aviez posée.
Oui, c'est justement toute cette question du coût de l'impression papier.
Je pense que si je supprime aujourd'hui l'impression papier, je ne peux pas faire vivre mon journal, ma marque de presse. Parce que tout le problème est la répartition des charges entre le site internet et le papier. Aujourd'hui, certains font peser 100% des charges éditoriales sur le papier et disent, bah, du coup, le papier, il perd de l'argent. Si on répartit les charges sur l'ensemble, moi, je sais que, en ce qui me concerne, si je n'ai plus le papier, je ne peux pas faire vivre mes marques de presse.
D'accord.
Parce qu'en plus, il y a un prix de vente au numéro qui est plus élevé que le prix de vente digital, qui fait que j'ai une marge sur le papier qui est plus importante
que
sur le digital. Encore une fois, ce qui est vertueux, c'est d'avoir les deux. Le digital nous a permis d'augmenter notre audience de plus de 50%. Donc c'est très important. Le papier reste le lien avec le lecteur, le côté sensuel.
Et justement, vous constatez comme nous, Francis Morel, c'est ce dynamisme absolument extraordinaire, alors à toute petite échelle par rapport aux titres que vous dirigez, en kiosque ou en librairie, toutes ces revues qui se créent tous azimuts partout en France. Septième obsession sur le cinéma, Oui Demain, Charles, Schnock, la revue du Crieur, la revue du ciné, Noto, 21. Il y a une vraie belle valeur ajoutée du papier. Même la revue des Deux Mondes, c'est toujours du papier.
Absolument. Ce qui prouve le dynamisme de la presse et l'attractivité de la presse. Il n'y aurait pas autant de créations s'il n'y avait pas derrière des lecteurs qui les achetaient. Même la revue, vous dites la revue des Deux Mondes, vous avez des passionnés de la revue des Deux Mondes.
Oui.
Et vous ne pouvez pas imaginer la disparition de la revue des Deux Mondes. Donc je crois que les marques de presse, justement parce qu'elles ont à la fois le papier et le digital, ont un vrai avenir devant elle.
Vous nous avez fait quand même une réponse de Normand et la date de la mort du papier, la date annoncée, c'est pas aujourd'hui qu'on l'aura.
Et le
message, c'est vraiment que personne ne peut vous la donner, sinon, voilà, c'est ça.
La seule chose que je peux dire, c'est que si je prends l'exemple de mes journaux, par exemple, je vais prendre volontairement un journal qui n'est pas à moi, Le Figaro.
Oui.
Le Figaro, quand vous avez des gens qui le lisent depuis 10-15 ans et qui ont maintenant une cinquantaine d'années, bah vous les avez encore pour 40 ans.
Merci Francis Morel. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Révé.
Bonjour Sana de Villers. Sommes-nous tous doués d'empathie, la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent? Nous attendons vos témoignages 01 45 24 7000.